va vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sous silencieux pour que cette séance se passe dans les meilleures conditions. Déjà plusieurs mains ici à Kinshasa. Nous allons juste aller au milieu de la salle. Cette fois-ci, il n'y a pas de questions au fond de la salle, donc tant mieux. Première question, présentez-vous.
Oui, Albert Romba, voilà. Numérica TV. Monsieur Leporte, mon colonel, je voudrais avoir beaucoup plus de précisions sur les affrontements qu'il y a eu dans les territoires de Nyiragongo. Est-ce que la force de la MONUSCO n'était pas présente dans les environs parce que vous avez mis des drones pour une surveillance étroite entre les deux frontières allant de Ishasha jusqu'à Goma? Est-ce que vous n'avez pas pu prévenir tous ces attroupements de part et d'autre des frontières?
Oui, merci pour votre question. Concernant les accrochages récents qui ont opposé l'armée congolaise à celle du Rwanda dans la région de Kibumba, comme vous le savez, nous ne pouvions pas prévenir un tel incident, dans la mesure où c'est un incident qui s'est produit aux environs de 3 heures du matin, et au cours desquels des combats ont opposé directement les troupes congolaises à celles du Rwanda pour le contrôle justement de cette zone dite Kanyesheza. Vous devez aussi prendre en considération le fait que dans cette partie du territoire, la frontière n'est pas clairement délimitée entre les deux pays, et depuis un certain temps, les gens se disputent d'ailleurs le contrôle de deux collines qui sont justement à la limite frontalière entre les deux pays. Évidemment, nous avons, comme vous l'avez dit, des aéronefs sans pilote qui sont déployés, mais qui ne sont pas déployés à tout moment et à tout endroit. Donc, nous n'avons pas pu prévenir cette histoire, mais actuellement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les bons offices prévalent et que la situation revienne au calme. D'ailleurs, la situation est revenue au calme et ces escarmouches ont été vivement condamnées. Et vous avez vu d'ailleurs l'implication même des membres du CIGLR pour essayer de ramener les deux parties à la raison et que la situation revienne à la normale pour que les populations vivent tranquillement.
Juste pour ajouter sur ce volet, il faut rappeler que le mécanisme conjoint de vérification élargie a été actionné par les deux parties et que nous attendons donc leurs conclusions. Tout cela mène à une certaine désescalade de la situation dans la région. Nous allons prendre une question à ma droite toujours.
Oui, c'est Monsieur Alain Waikani pour la télévision centrale de Chile, CCTV. Je reviens parce que vous avez parlé des mécanismes conjoints. La MONUSCO, depuis un certain temps, a été sollicitée effectivement de prendre part dans ces mécanismes. Mais pourquoi les rapports, chaque fois que ces gens-là descendent sur terrain, on oublie, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire et c'est quoi alors les résultats de leur présence sur terrain? Mais aussi, je reviens pour la deuxième question, peut-être le colonel va intervenir. Le chef du bureau de la MONUSCO, a été très dur contre la FDLR FOCA dans un communiqué qu'il a publié hier. Il dit que FOCA ne respecte pas ses engagements suite aux exactions qu'il est en train de commettre contre les civils. Donc, comment vous justifiez cela alors que le monde est retenu par des redditions massives de FDLR dans les Kivu? C'est quoi le lien dans ces communiqués et ce qui se passe sur terrain? Merci.
Pour ce qui concerne l'IGVM, vous savez que c'est un mécanisme qui appartient à la CIRGL et donc les conclusions sont apportées à ce niveau pour établir les faits. Et je crois que vous, en tant que journaliste, si vous avez des contacts, vous pouvez interpeller effectivement cette institution pour savoir quels sont les résultats de leur enquête. Mais j'insiste pour dire que effectivement, tant le Rwanda que la RDC, dès après ces incidents, ont actionné, ont demandé sur place à l'IGVM de se déployer et de faire la vérité, la lumière sur les incidents. Je crois que les résultats sont en train d'être compilés et une fois que ce sera fait, je crois que ou la CIRGL ou directement l'IGVM pourront communiquer sur ces événements. C'est vrai que une fois de plus, la MONUSCO fait partie de cette institution, mais il n'appartient pas à la MONUSCO de révéler le contenu de ces enquêtes. Ça appartient une fois de plus à la CIRGL qui peut effectivement communiquer dessus. Commandant, le deuxième volet de la question.
Donc juste pour...
Colonel, pardon.
Oui, pour... merci. Juste pour rajouter un peu concernant justement les GVM, c'est vrai que nous en faisons partie, mais n'oubliez pas que c'est une création de la CIGLR, comme il a dit, mais cette institution est complètement soutenue par la force de la MONUSCO pour lui permettre de faire son travail. Donc maintenant, pour revenir un peu aux déclarations dont vous avez fait mention, relatives à ce que le chef de bureau a dit récemment concernant les exactions commises par FDLR FOCA. C'est vrai que depuis le 30 mai, les FDLR ont officiellement exprimé leur volonté à se rendre de manière pacifique, une reddition pacifique, et d'intégrer le processus DD3R qui est mis en place à leur sujet. Toutefois, nous avons aussi remarqué que malgré les déclarations d'intention, mais malgré même la dynamique qui est enclenchée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que au cours de la semaine écoulée, nous avons enregistré aussi bien au Nord Kivu 102 reddition des FDLR plus 4 membres de leur famille, mais au Sud Kivu aussi la même dynamique a été poursuivie parce que 83 FDLR se sont rendus avec 234 membres de leur famille. Donc la dynamique est enclenchée, nous l'appuyons, nous l'accompagnons avec tous les moyens logistiques humains mis en place pour justement favoriser cette reddition. Toutefois, nous avons aussi observé que les FDLR FOCA étaient beaucoup, très actifs, et que des exactions étaient commises sur les populations civiles, et c'est dans ce cadre-là que M. Rey Torres, qui est le chef de bureau, a encore une fois appelé les FDLR, surtout FOCA, à mettre un terme aux activités négatives pour ne pas non seulement compromettre la dynamique de reddition, mais aussi pour montrer leur bonne volonté d'aller vers un processus de paix. Donc je pense que l'un dans l'autre, la MONUSCO continue toujours par la voix du chef de bureau à appeler ces gens à mettre un terme aux activités négatives et à aller pacifiquement vers le processus de reddition.
Et nous l'avons toujours dit, toutes les options restent sur la table. En cas de non-reddition, la MONUSCO se verrait obligée d'engager des actions militaires sur le terrain. Nous allons, s'il vous plaît, passer sur la gauche avant de rejoindre Goma. Une question sur la gauche. Oui, juste à côté d'abord et puis ensuite au fond de la salle.
Merci. Hakim Kombo pour Canal Kinshasa Télévision. Dans le triangle de la mort, colonel, on semble réclamer la présence de la MONUSCO, donc à l'avis de l'administrateur. Cela pourra faciliter la reddition de notre milicien Maïmaï Gédéon. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de comprendre cet appel et renforcer la présence des casques bleus dans ce triangle que nous appelons tous de la mort?
Pour moi, il est évident que une telle déclaration de l'administrateur du territoire de Mitouaba par Monsieur Kassongo, je pense que cette déclaration est très importante pour la MONUSCO, parce que notre objectif et notre présence ici, c'est justement de favoriser les reddictions pacifiques. Gédéon s'est échappé de la prison de Lubumbashi depuis un certain temps, il a reconstitué son groupe et il est en train d'évoluer dans le triangle de la mort, comme vous l'avez dit, particulièrement à Manono, au sud de Manono, d'où il est issu. Il a demandé à faire reddition dans son village à Kabale et a demandé à la MONUSCO de venir parce qu'il a confiance à la MONUSCO pour engager ce processus de reddition. Évidemment que nous sommes interpellés, évidemment que nous sommes à l'écoute de tout ça et que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour justement déployer ou mettre en œuvre un mécanisme qui permette la reddition pacifique de Gédéon et de ses éléments dans cette partie du territoire de la province du Katanga. Maintenant, la présence des casques bleus, évidemment, c'est dans le cadre d'une approche holistique qu'il faut voir ça. Nous étions à Pueto jusqu'à ce que la situation soit un peu plus calme, et pour des raisons opérationnelles, nous avons été redéployés ailleurs. Mais il est évident que quand nous étions à Pueto, la menace s'est déplacée, au lieu d'être à Mitouaba, elle est venue vers le sud du territoire de Manono. Donc c'est pour cela que dans l'approche holistique qui est prévue, la force de la MONUSCO est en train de planifier un déploiement beaucoup plus conséquent pour venir sécuriser les populations civiles et accompagner le processus de réduction de Gédéon au besoin.
Pour ce qui est de Gédéon, il faut savoir que, en termes très clairs, c'est un criminel qui, comme l'a dit le colonel, s'était échappé de prison, de la prison de Kassapa. S'il se rend, il faut qu'il sache qu'il doit faire face à la justice. Et sur ce plan, la MONUSCO ne tergiversera pas. Il retournera donc en prison pour répondre des crimes qu'il a commis. Vous savez que ces crimes sont nombreux, viols, recrutement d'enfants soldats, etc., etc. Donc il faudra qu'il réponde de ces crimes-là, il faut qu'il le sache très clairement. Merci, nous allons prendre une deuxième et dernière question sur la gauche avant d'aller à Goma.
Merci pour la parole, c'est Sanforien pour le compte de l'explorateur. Dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il est stipulé qu'un dialogue national sur l'évaluation doit nécessairement être tenu pour la bonne marche des enjeux politiques en RDC. Qu'en dites-vous? Si oui, où en sommes-nous? Je vous remercie.
Dans l'accord cadre, il est dit que, reprenez la question.
L'évaluation, dans l'accord cadre d'Addis Abeba,
oui,
l'évaluation doit se tenir.
Oui, mais vous savez que il y a l'accord qui se situe à différents niveaux, au niveau national, au niveau régional et puis au niveau de la communauté internationale. Donc, plusieurs rencontres ont déjà été organisées à la fois ici en RDC. Vous savez que la dernière a eu lieu à Goma où autour de Marie Robinson, il y avait les acteurs tant nationaux que régionaux qui ont évalué la mise en œuvre de l'accord cadre pour savoir un peu les différents volets qui restent à accomplir. Cette évaluation doit se finaliser, je crois, dans les semaines qui viennent, car la réunion était juste une réunion de mise en commun des différentes actions entreprises, tant au niveau des pays de la sous-région qu'au niveau de la communauté internationale. Donc, nous allons, dans les jours qui viennent, vous donner, en relation avec le bureau de Marie Robinson, qui chapeaute en réalité l'avancée de cet accord cadre, nous allons nous mettre en rapport avec eux pour savoir l'évaluation qu'ils ont faite de la mise en œuvre de cet accord cadre, et nous le rapporterons dans les jours qui viennent, avant même la conférence de la semaine prochaine, de la conférence de presse de la semaine prochaine. On vous donnera un accord, un compte-rendu détaillé de ce qui reste à faire dans le cadre de cet accord. Voilà, merci bien. Nous allons nous rendre tout de suite à Goma. Goma, nous prendrons trois questions d'affilée, s'il vous plaît.
Ok, on va commencer par Victor Bigatti de Hebdo de l'Est.
Oui, c'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. Est-ce que l'envahissement de la zone Est par les Rwandais n'est pas une bombe à retardement?
Est-ce que l'envahissement de la zone neutre par le Rwanda n'est pas une bombe à retardement, colonel? Est-ce que cette information est d'abord vraie?
D'abord, je ne saurais parler d'envahissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une incursion délibérée pour venir occuper pour longtemps cette zone-là. Je peux dire tout simplement que ces escarmouches qui se sont passées il y a quelques jours, heureusement, avec les bons offices qui sont mis en œuvre, je pense qu'on arrivera quand même à réduire un peu la tension qui existe. Et comme l'a dit Charles tantôt, l'implication de tous les acteurs. Vous avez vu d'abord Monsieur Kobler qui personnellement s'est impliqué avec le général Wafi pour ramener les deux parties à la raison. Et je pense qu'aujourd'hui la situation est calme et ça augure quand même de développement positif dans l'avenir. Je pense que c'est ça qu'il faut plutôt retenir.
Deuxième question à Goma.
Oui, Inga Paterne de Associated Press.
Oui, c'est Inga Paterne. Ma question est adressée au colonel Félix Passe. Ma première question, c'est quelle lecture faites-vous vis-à-vis à la coalition qui serait envisagée d'ici là, de Tchika, janvier, et groupes armés fictifs? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pouvez-vous nous parler de la disparition de ce journaliste
le
représentant des journalistes
de la société civile.
De la société civile. Merci beaucoup.
Merci pour Vos deux questions, je commencerai par la première à laquelle je répondrai tout de go, que je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé réellement à ce niveau-là. Comme vous, j'ai appris que le corps sans vie de ce représentant de la société civile a été récemment retrouvé et que les obsèques étaient en préparation. Maintenant, les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort, je ne saurais m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Mais je pense qu'en vous rapprochant de la société civile du Nord, où vous vous trouvez, particulièrement à Goma, je pense que ceux qui ont découvert le corps pourront vous en dire un peu plus, en attendant que les enquêtes qui, bien sûr, vont suivre, puissent déterminer avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé.
Je crois que les enquêtes devraient d'abord, dans un premier temps, déterminer exactement si le corps appartient à ce représentant de la société civile. Il y avait quelques doutes dessus. Je crois que l'enquête pourra déjà établir cette vérité d'abord.
Oui. Donc maintenant, pour votre première question qui est relative à une éventuelle coalition, Maïmaï Tcheka, La Fontaine, je pense que vous faites un peu erreur parce que justement, il ne peut pas y avoir de coalition entre La Fontaine et Tcheka à l'heure qu'il est. Tcheka est aujourd'hui, depuis qu'il a été dégagé de Pinga, il est aujourd'hui en train d'être très actif dans la région de Bunyampuli et de Kachéberé. Et vous saviez aussi que des combats avaient opposé Tcheka et les FDLR jusque dans le territoire, au sud du territoire de Lubero, et que Janvier avait été menacé. À ce titre, Janvier, justement face à cette menace de Tcheka, a déplacé son état-major de Bonyatengue vers Kopoka. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, nous observons une forme de regroupement de certains groupes armés dans le territoire de Lubero pour aller contre Tcheka dans le territoire de Walikale. Évidemment, cette coalition-là, nous en avons entendu parler, mais nous ne pouvons pas avec précision certifier qu'elle est en train de se former. Mais nous observons cette situation de très près parce que elle va générer, bien sûr, une situation de tension qui va provoquer le déplacement des populations civiles, et notre rôle étant de les protéger, nous sommes en train de planifier en amont pour prendre en compte cette éventualité au cas où elle se passerait. Donc, je pense que la confusion à ce niveau doit être levée. Tcheka est contre La Fontaine, ils ne sont pas ensemble. Au contraire, ils sont en train de se préparer pour une confrontation éventuellement dans les jours ou les semaines à venir. Et la force de la MONUSCO, en collaboration avec les FRDC, nous sommes en train de suivre cette affaire et de prendre les mesures idoines pour protéger les populations civiles.
Goma.
Hortense Tabakou.
Oui, merci beaucoup. Ma question s'adresse au colonel Bach. Est-ce que la MONUSCO reconnaît quand même la violation du territoire congolais par l'armée rwandaise? Je reviens à la première préoccupation de mon frère, parce que nous avons appris que le mécanisme conjoint de vérification élargie, où il y a deux officiers de la MONUSCO, a effectué une mission de vérification et au Rwanda et en RDC. Bon, jusque-là, vous dites qu'il n'y a pas de rapport. Mais est-ce que, monsieur le porte-parole militaire, reconnaissez-vous cette violation? Merci.
Merci madame pour cette préoccupation. Je pense que Charles y a répondu d'une certaine façon. Évidemment, je vais aller plus loin. Vous savez, il n'appartient pas à la MONUSCO de venir faire le point sur la délimitation de la frange frontalière entre ces deux pays-là. Vous avez parlé du GVM. Évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que le GVM est une structure qui avait été créée par la Conférence internationale des Grands Lacs au lendemain de la rébellion du M23, au même titre que la mission d'évaluation conjointe et le centre conjoint de fusion de renseignements. Voilà les trois structures que la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs avait mises en place pour justement gérer toutes ces situations. Nous avons demandé à faire partie du mécanisme conjoint, puisque nous le supportons logistiquement, nous les aidons à faire leur travail. Certes, nous sommes dedans, mais il vous l'a dit. Ce n'est pas la MONUSCO qu'on rencontre. Le rapport du JVM va être bientôt disponible et je pense que dès que ce rapport sera là, nous le mettrons à votre disposition. Mais je ne peux pas vous infirmer ou reconnaître ou ne pas reconnaître, puisque au départ, nous avons dit qu'il y a des problèmes de délimitation de la frange frontalière. Donc je pense que il y a un temps en arrière, les deux pays avaient mis en place des comités ou des commissions justement pour délimiter avec précision ce qui constitue, si vous voulez, des problèmes récurrents quant à la frontière qui délimite les deux pays. Mais je ne peux pas reconnaître ou ne pas reconnaître, le rapport de la GVM le dira avec précision et dans l'impartialité.
D'ailleurs, la MONUSCO, dans son dernier communiqué que vous avez reçu sans doute, dit très clairement ceci. La MONUSCO appelle les deux parties à s'engager à nouveau dans la résolution pacifique des questions liées à la délimitation des frontières. Et donc, nous espérons que, avec cette accalmie qui s'est instaurée, avec les enquêtes menées sur le terrain, comme vous le dites, de part et d'autre de la frontière des deux pays, nous espérons que cela va ouvrir une nouvelle ère pour enfin, de compte, délimiter cette frontière qui pose effectivement problème. Nous allons prendre, avec votre permission, une dernière question à Goma.
Oui, c'est Combi, Jonathan.
Merci, Jonathan Combi, de Vibia FM. Monsieur le porte-parole, Basse, confirmez-vous l'information selon laquelle la coalition MONUSCO FRDC a libéré 140 otages des mains des ADF à Beni? Ce qui me pousse à savoir où est-ce que vous en êtes avec l'opération de ratissage de ces rebelles. Et pour Bambara, les forces vives de l'Équateur refusent la délocalisation des FDLR vers cette province. Qu'est-ce que la MONUSCO va faire pour que les FDLR obtiennent un dialogue inter-rwandais chez eux au Rwanda? Merci.
Oui, merci pour votre question. D'abord, pour vous informer, l'opération Sokola 1 qui a été lancée par les FRDC depuis le début du mois de janvier se poursuit. Et comme vous l'avez vu, des résultats conséquents ont été engrangés par les FRDC qui, grâce à leur détermination et leur courage, ont pu quand même capturer tous les bastions jadis occupés par les rebelles de l'ADF. Aujourd'hui, tous les bastions sont tombés. Ils poursuivent les opérations de nettoyage, de bouclage, de ratissage, mais aussi de nettoyage pour essayer de mettre définitivement un terme à ce groupe armé qui, certes, est aujourd'hui très faible, mais n'est pas complètement neutralisé. Il faut le garder à l'esprit. Donc, les opérations se poursuivent. Maintenant, concernant les otages, vous savez, ça a été la préoccupation de la MONUSCO bien avant le début de ces opérations. Les otages restent au cœur de nos préoccupations au-delà de l'appui tactique et logistique que nous fournissons au FRDC, mais aussi des efforts que nous menons conjointement pour essayer d'éradiquer définitivement ce groupe armé du nord Kivu. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, nous poursuivons nos investigations, nous poursuivons les opérations pour essayer non seulement de savoir où se trouvent ces rebelles, mais aussi de les libérer. Donc, je ne peux pas confirmer, parce que c'est vous qui me l'apprenez, je ne peux pas confirmer la libération de 100 et quelques otages qui étaient initialement détenus par les ADF.
Pour ce qui concerne l'opération de démobilisation des FDLR, il faut savoir que dès le début de cette opération, la MONUSCO a été très claire. Cette opération de démobilisation des armements des FDLR est une opération menée et dirigée par le gouvernement congolais que nous, au niveau de la MONUSCO, nous appuyons sur le plan logistique, sur le plan matériel et sur le plan sécuritaire. Et donc, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a d'ailleurs déclaré cette opération comme étant une opération prioritaire pour la MONUSCO et l'ensemble des services de la MONUSCO, tant au nord et qu'au sud Kivu, en ont fait donc leur priorité. Ce faisant, nous accompagnons donc le gouvernement pour ce qui s'agit des lieux où doivent être transférés les FDLR. Et vous savez que la province de l'Équateur a été choisie non pas par la MONUSCO, mais par le gouvernement. Et donc, c'est au gouvernement de nous dire où, à partir du sud et du nord Kivu, doivent aller ces FDLR pour que nous mettions une fois de plus notre logistique à la disposition du gouvernement pour les accompagner dans cette opération. Nous restons, dans tous les cas, partenaires dans cette opération, solidaires du gouvernement, et nous allons tout faire pour les accompagner dans cette opération. Pour ce qui s'agit du dialogue inter-congolais, vous savez que nous, au niveau de la du dialogue inter-rwandais, vous savez que nous, au niveau de la MONUSCO, nous avons un mandat qui se limite au niveau donc de la RDC, mais Madame Mary Robinson, dans ses capacités, dans sa charge, a une couverture beaucoup plus régionale, et elle a dit ici plusieurs fois en conférence de presse. Elle a la même attitude tant au niveau de la RDC qu'au niveau du Rwanda, qu'au niveau des autres pays de la sous-région. Donc c'est à son niveau qu'il va falloir voir comment elle pousse ce dialogue inter-rwandais, comment ça aboutira, dans quel cadre cela se fera, avec qui cela se fera. Je pense que elle visite régulièrement la RDC, que ce soit Goma, que ce soit Kinshasa. Moi, je vous inviterai à lui poser la question une fois de plus pour qu'elle éclaircisse votre lanterne. Nous allons revenir à Kinshasa ici. Nous allons prendre au fond de la salle, parce que souvent on se plaint de ne pas avoir la parole plutôt au fond de la salle. Et ensuite, on va passer sur la. On prend une question à droite, une question à gauche. Rapidement, voilà, une main levée là, juste au bout. Mais ce sont les mêmes personnes qui posent toujours les mêmes questions. Enfin, pas les mêmes questions, mais souvent des questions. Présentez-vous quand même.
Roger Marley Lukunga, pour le journal Le Paris. Lorsque vous faites le rapport sécuritaire, je constate que vous faites toujours abstraction de la participation des AFRICOM à vos côtés. Je me demande, est-ce une stratégie de la part des AFRICOM d'évoluer sans être cité? C'est-à-dire d'évoluer dans l'anonymat, ou bien c'est de votre côté que vous taisez sa participation?
Colonel?
Merci. Vous savez, nous ne parlons pas d'AFRICOM parce qu'AFRICOM n'est pas sur le territoire congolais et ne travaille pas avec la MONUSCO. Je pense que vous êtes en train de vous tromper un peu. AFRICOM n'est pas là. Donc, nous sommes sur le territoire congolais avec les troupes congolaises pour faire un travail. Si vous parlez maintenant éventuellement de la présence peut-être des troupes américaines, vous parlez peut-être, ceci entre dans le cadre de la lutte globale régionale contre la LRA. Et ça, ce sont des Marines qui ne sont pas en territoire congolais, mais qui participent à la traque contre Kony et ses éléments. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Pardon? Qui? Oui, la Centrafrique est un autre théâtre dans le...
Je crois que vous pouvez continuer cette discussion après la conférence de presse. Nous
c'est
allons
mieux, oui.
Prendre une question sur la gauche ici. Voilà. Rapidement, il ne nous reste plus que 5-6 minutes. On a le temps de prendre, je crois, 3 questions. Présentez-vous, monsieur.
Merci, c'est Joseph Kazadi, Direct Télévision. Ma question s'adresse au colonel Félix Bass. Colonel, d'une part, le porte-parole des FRDC, le colonel Olivier Amouli, avait, à l'issue des combats qui avaient opposé l'armée congolaise à celle du Rwanda, reconnu la mort d'un élément des forces armées congolaises. D'autre part, l'armée rwandaise avait présenté vendredi dernier, devant la presse locale et internationale, 5 corps sans vie des forces armées congolaises qu'elle affirmait avoir tués à l'issue de ces combats. Comment vous réagissez là-dessus?
Mais je réagis comme vous, parce que vous êtes tout à fait dubitatif face à deux déclarations, l'une du Rwanda, l'une de la République démocratique du Congo, et à ce titre, nous vous avons dit qu'il y a une structure spécialisée qui a été chargée de faire la lumière sur ça et qu'à l'issue de ces investigations, un rapport vous sera communiqué. Cette structure, c'est le mécanisme conjoint de vérification. Je pense qu'avec un peu de patience, nous pourrons avoir avec précision les tenants et les aboutissants de de cet incident-là.
Une dernière question quelque part sur la gauche, là.
Oui. Merci, c'est Honoré Mbenga, agence presse associée, APA. Je pose ma question à monsieur le porte-parole, monsieur Bambara. Dernièrement, faisant allusion au rapatriement de forces de FDLR basées actuellement dans la province de l'Équateur, le gouvernement congolais aurait envisagé de les déplacer au moins vers l'ouest que vers les frontières. Ne voyez-vous pas là que cette mesure inspire au moins l'imprudence parce que ces troupes ont déjà montré que ce sont des troupes guerriers. Ils sont très violents. Pour autant qu'ils sont entrés en RDC sans l'autorisation, mais ils voudraient sortir avec l'autorisation. Est-ce que vous trouvez ça comment?
Je crois personnellement que M. Lambert Mende, au cours de sa conférence de presse, a évoqué cette question. Donc je me voudrais de ne pas revenir, moi, sur ce qu'il a déclaré lui-même. Nous allons prendre une dernière question. On va aller à Goma. Et ensuite, on revient à Kinshasa, s'il vous plaît. On prend une question à Goma.
Oui,
Charlie.
Oui.
Mon nom, c'est Charlie Kasereka pour SoftKen TV de Toronto. J'ai une question. Dans votre lecture sur la situation militaire, colonel, vous avez parlé des quatre éléments M23. On peut dire aujourd'hui qu'il y a encore des éléments M23 armés sur les sols congolais.
Je pense que j'ai parlé de reddition, mais je n'ai pas parlé de reddition avec armes. Vous savez, lors de l'offensive conjointe MONUSCO-FRDC contre le M23, nous savons que certains membres du M23 sont partis en Ouganda, d'autres sont partis au Rwanda, mais nous savons aussi que d'autres se sont dilués dans la nature. Et justement, face à la pression militaire qui est aujourd'hui exercée par les FRDC soutenus par la MONUSCO contre tous les groupes armés, face aux différents ultimatums lancés par le gouvernement congolais, mais aussi face à tous les appels qui sont réitérés de manière incessante aussi bien par la MONUSCO que le gouvernement congolais, je pense qu'il faut se féliciter que ces gens sortent des bois et viennent se rendre de manière pacifique comme nous le désirons, parce que comme nous l'avons dit, l'option guerrière n'est pas la priorité. Nous favorisons d'abord les redditions volontaires et c'est à ce titre que nous voyons que en filigrane, les éléments du M23 qui s'étaient dilués commencent à sortir. Donc c'est un processus qui n'est pas très important, mais de temps en temps, dans le cadre du bilan que nous faisons des redditions, nous évoquons parfois un ou deux membres du M23 qui se sont rendus ou aux troupes congolaises ou aux troupes onusiennes.
Il reste 2 minutes. Je me rends compte qu'on n'a pas eu de questions sur le volet développement ou sur le volet humanitaire. Est-ce qu'il y en a pour boucler cette conférence de presse ? Humanitaire, développement ? Oui ? Bon, on lui donne le micro, alors. Je crois que... Non, mais après, ceux qui ont des questions, nous sommes à votre disposition après la conférence de presse. Ne l'oubliez pas. Donc, monsieur, présentez-vous.
Saint-Germain-des-Prés, pour le double compte...
Allez-y, monsieur.
C'est Saint-Germain-des-Prés, pour le double compte du chevalet de la plume et de l'expression. J'ai une préoccupation en rapport avec l'UNICEF par rapport à la journée de l'enfant africain qui vient de se célébrer il y a de cela 3 jours. Et à la lumière de laquelle la question que je m'apprête à poser est en rapport avec la déperdition scolaire dont sont victimes les enfants de la RDC qui ont été chassés des Brazzaville. Voilà, la question est de savoir quelle est l'implication de l'UNICEF pour un certain retour d'un cahier au pays natal, c'est-à-dire pour que ces enfants puissent retourner à l'école ou poursuivre leur scolarité.
Je crois que nous n'avons pas de représentant de l'UNICEF, mais Ocha peut-il donner quelques éléments d'information ? Le PNUD, quelques éléments d'information ? Ocha, dans les camps à Maluku, on s'occupe des enfants, non ? Je crois. Pas vraiment ?
Oui. Alors, c'est une question pour laquelle je n'ai pas exactement la réponse sur le plan, éducation. Mais effectivement, à Maluku, il y a de nombreux enfants qui constituent d'ailleurs la majorité des personnes qui y sont. Et l'aide qu'elles reçoivent en ce moment, principalement dans les domaines de la santé, de l'eau, de la nourriture. Mais qu'est-ce qui est prévu exactement en termes d'éducation ? Là, il faudrait vraiment demander à l'UNICEF.
Merci. On va revenir avec vous pour ces éléments de réponse sur l'éducation des enfants rentrant de Brazzaville. C'est tout pour cette conférence de presse. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Merci.